Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 28 janvier 1871, la capitulation de la France dans le conflit qui l'oppose à l'Allemagne. À Bordeaux, Léon Gambetta reçoit un télégramme laconique de Jules Favre. Versailles, 28 janvier 1871, 11h15 du soir, nous signons aujourd'hui un traité avec M. Bismarck, un armistice de 21 jours est convenu, une assemblée convoquée à Bordeaux pour le 15 février, faites connaître cette nouvelle à toute la France, faites exécuter armistice et convoquez les électeurs pour le 8 février, un membre du gouvernement va partir pour Bordeaux. Depuis l'échec de la grande sortie de la garnison de Paris début décembre 1870, la situation s'est dégradée dans la capitale. Le froid et la disette se sont accentués, il y a 30 cm de neige dans les rues. Pour se chauffer, les Parisiens coupent les arbres du bois de Boulogne, dépècent les bancs des boulevards et brûlent les meubles. Pour se nourrir, ils mangent les chevaux, les chats et les chiens. Les plus pauvres dévorent des rats. Le 21 décembre, une nouvelle sortie échoue sous le feu de l'artillerie allemande. Le 5 janvier 1871, le bombardement des quartiers de la rive gauche de la Seine fait une centaine de victimes. La tension nerveuse des Parisiens est durement éprouvée. Président du gouvernement provisoire de la République, Jules Favre souhaite négocier l'armistice. Mais la garde nationale veut poursuivre la lutte à outrance. Le 19 janvier, elle effectue une ultime sortie qui se solde par la défaite de Bouzenval. Trois jours plus tard, des gardes nationaux insurgés s'emparent de 2000 rations de pain entreposées à la mairie de Belleville. Puis au cri de « pas d'armistice, guerre à outrance, vive la commune !» ils envahissent la place de grève et ouvrent le feu sur l'hôtel de ville. Les émeutiers sont dispersés, plusieurs arrestations sont opérées, les clubs populaires sont fermés, le gouvernement a désormais les mains libres. Le 22 janvier 1871, Jules Favre dépêche un parlementaire auprès du chancelier Bismarck. Il est porteur d'une demande d'entrevue. À 17h, il quitte le ministère des Affaires étrangères, tapis au fond d'une voiture, il gagne le pont de Sèvres, il traverse la Seine sur une modeste barque, avançant au milieu des glaçons. À 20h, il est à Versailles, où il rencontre Otto von Bismarck, le chancelier du Reich, formule des exigences minimales, il n'impose pas l'entrée des troupes allemandes dans Paris, il ne revendique pas l'élection d'une Assemblée nationale française. Jules Favre reçoit les pleins pouvoirs pour conduire une convention d'armistice générale. Les pourparlers reprennent à Versailles le 23 janvier dans la soirée. La convention est signée le 28 janvier à 22h malgré l'opposition de l'état-major allemand qui espère poursuivre une guerre d'extermination. Elle stipule la conclusion d'un armistice de 21 jours, durant lesquels sera élue et réunie une assemblée nationale qui décidera de la paix ou de la guerre. Elle prévoit le maintien des forces en présence dans les départements sur leurs positions respectives. Belfort, le Doubs, le Jura, la Haute-Saône et la Côte d'Or sont exclus de cette disposition. Le ravitaillement de Paris est autorisé, les forts extérieurs du camp retranché parisien sont évacués, l'enceinte fortifiée de la capitale est désarmée, une contribution de guerre de 200 millions de francs est imposée, l'armée de Paris est dissoute à l'exception d'une division chargée du maintien de l'ordre. Le télégramme annonçant l'armistice parvient à Léon Gambetta le 29 janvier au matin. Il reçoit le texte de la Convention le surlendemain. Sa douleur et sa fureur sont extrêmes. Dans la soirée du 31 janvier, il lance une proclamation qui exprime son patriotisme blessé. À notre insu, sans nous avertir, sans nous consulter, on a signé un armistice dont nous n'avons connu que tardivement la coupable légèreté qui livre aux troupes prussiennes des départements occupés par nos soldats et qui nous impose l'obligation de rester 3 semaines au repos pour réunir dans les tristes circonstances où se trouve le pays une assemblée nationale. Nous avons demandé des explications à Paris et gardé le silence, attendant pour vous parler l'arrivée promise d'un membre du gouvernement. Cependant, personne ne vient et il faut agir. Français, songeons à nos pères qui nous ont légué une France compacte et indivisible. Ne trahissons pas notre histoire. Non, il ne se trouvera pas un Français pour signer ce pacte infâme. L'étranger sera déçu. Il faudra qu'il renonce à mutiler la France, car tous, animés du même amour pour la mère patrie, impassibles au revers, nous redeviendrons forts et nous chasserons l'étranger. Léon Gambetta est au seuil de la rébellion. Il hésite, mais sa proclamation s'accompagne d'un décret convoquant les électeurs pour le 8 février 1871. Leur choix est limité. Sont déclarés inéligibles les anciens ministres, sénateurs, conseillers d'État, préfets et candidats officiels du régime impérial. Aussitôt, Otto von Bismarck proteste contre cette disposition restrictive qui est contraire à la libre élection de l'Assemblée nationale prévue par la Convention d'armistice. En même temps, arrive à Bordeaux Jules Simon, envoyé par le gouvernement provisoire. Il porte un décret de convocation qui supprime toute cause politique d'inéligibilité. Jules Simon est soutenu par Adolphe Thiers, dont le prestige est considérable. Il est rapidement rejoint par 3 autres ministres qui renforcent son opinion et lui assurent la majorité. Léon Gambetta a perdu la partie. Nous nous retrouvons dans un instant pour la chronique littéraire. Un jour, 3 livres, mais avant cela, une pause musicale. Hommage aujourd'hui à Christophe qui nous a quittés ce printemps. Nous écoutons l'un de ses plus grands succès, Les mots bleus.
Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule, je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les ce qui rend les gens heureux, je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Il reste une rancœur subtile qui gâcherait l'instant fragile de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole n'a plus besoin du protocole. Et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Je lui dirai tous les mots bleus, tous ceux qui rendent les gens heureux.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour, trois livres consacrés à la guerre. Tout d'abord, celle de 1870 qui fait suite à la narration que vous venez d'écouter, La Grande Défaite, 1870-1871. C'est signé Alain Gutmann, c'est publié aux éditions Perrin dans la collection Tempus. À l'occasion du 150e anniversaire de la guerre franco-prussienne, La Grande Défaite 1870-1871, paru en 2015 et réédité chez Perrin dans la collection Tempus. Spécialiste de l'histoire militaire du Second Empire, Alain Gutmann présente les circonstances qui conduisent à l'été 1870 au déclenchement du premier conflit franco-allemand. Il détaille les principaux affrontements qui mènent l'armée française au désastre de Sedan et à la capitulation de Metz. Il s'intéresse à la proclamation de la République le 4 septembre et à la poursuite des hostilités par le gouvernement républicain jusqu'à la cessation des combats. La narration trouve son terme avec l'épisode de la Commune de Paris. C'est un ouvrage essentiel pour approfondir notre connaissance d'un événement majeur de notre histoire souvent occulté. La Grande Défaite 1870-1871 d'Alain Gutmann, c'est aux éditions Perrin dans la collection Tempus. Les Français de l'an 40 de Jean-Louis Crémieux-Briac aux éditions Gallimard dans la collection Folio Histoire. Ancien résistant, Jean-Louis Crémieux-Briac rejoint le général de Gaulle à Londres. Il devient secrétaire du comité de propagande de la France libre. Pour le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin, les éditions Gallimard republient dans l'excellente collection Folio Les Français de l'an 40, paru en 1990. En deux volumes épais, Jean-Louis Crémieux-Briac nous invite à une histoire globale de la France à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Le premier intitulé « La guerre, oui ou non » porte sur le contexte politique et sociétal. L'auteur présente avec talent les hésitations d'une société tiraillée entre pacifisme et nationalisme qui finalement se réfugie dans l'attentisme. Il faut lire en particulier les pages consacrées à Édouard Daladier. Le second volume, dénommé « Ouvriers et soldats », s'intéresse à l'analyse économique et sociale. Jean-Louis Crémieux-Briac insiste sur les insuffisances de l'armement français, la faiblesse de l'aviation et de l'arme blindée. Il rappelle également le considérable effort de guerre mené dès l'automne 1939 par le ministre de l'Armement Raoul Dautry. C'est une œuvre remarquable qui éclaire les enjeux de l'an 40. Je vous le recommande tout particulièrement. Je vous recommande tout particulièrement la lecture de ces deux opus, Les Français de l'an 40 de Jean-Louis Crémieux-Briac. C'est aux éditions Gallimard dans la collection Folio Histoire. J'ai débarqué le 6 juin 44 de Gwen A.L. Bolloré aux éditions Cherche Midi. Là encore, c'est une réédition. L'oncle de l'industriel Vincent Bolloré, qui signe la préface de ce livre, s'engage dans les forces françaises libres à 17 ans. L'année suivante, il est l'un des 177 membres du célèbre commando de fusiliers marins Kieffer, qui participe au débarquement des troupes alliées sur les plages de Normandie au matin du 6 juin 1944. C'est un récit spontané, vif et touchant que nous livre l'auteur décédé en 2001. C'est un témoignage précieux de cet épisode fascinant de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. J'ai débarqué le 6 juin 44 de Gwen A.L. Bolloré. C'est aux éditions du Cherche Midi, et ce, en format de poche. Merci à Lucas qui a réalisé cette émission. Nous nous quittons en chanson avec Christophe, auquel nous rendons hommage dans cette émission Historama. Nous écoutons Senorita.
Quand on ne joue plus les marlous, je n'ai pas revu quatre ballons. Rien n'a plus, rien n'a plus vraiment le même goût. Viviane Leigh a les cheveux blancs, elle regrette le noir et blanc. Pour autant qu'on emporte le vent. Wow, wow, wow. Señorita, dépêche-toi et remets ta robe de tata. Tous les plus grands airs d'opéra ont des relents de rumba. Señorita, dépêche-toi, je suis un peu plus vieux que toi. Je ne vais plus au cinéma, on a fermé l'Alhambra. Quand on voudrait bien retenir un tramway nommé Désir, Hollywood, Hollywood ne veut pas mourir. Marilyn aurait 50 ans, James Dean n'est plus un géant. Rien n'est plus vraiment comme avant. Wow, wow, wow. Señorita, dépêche-toi, je sens qu'il est bien tard déjà. Quand ma guitare a sous mes doigts les caprices d'une diva. Señorita, dépêche-toi, j'espère que tu ne m'en veux pas. Mais les fins comme au cinéma, tu sais ça n'existe pas. Quand on n'est plus sur sa moto, il se meurt dans un tango, retenant, retenant le dernier sanglot. Tous les Indiens sont en VO à l'ouest du Rio Bravo. Rien ne va plus, rien ne va plus, même chez les gringos. Wow, wow, wow. Señorita, dépêche-toi et remets ta robe de tafta. Tous les plus grands airs d'opéra ont des relents de rumba. Señorita, dépêche-toi, je suis un peu plus vieux que toi. Je ne vais plus au cinéma, on a fermé l'Alhambra. Señorita, dépêche-toi, j'ai oublié les camélias. Je n'ai pas le physique pour ça, alors danse, danse pour moi. <t'->